Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Nous sommes le samedi 9 octobre 2021. Soyez tous les bienvenus sur la radio Nzamba Agathe Kakaoué au sommaire de ce journal. L'attribution des marchés à l'origine d'une mésentente entre la directrice et le chargé des finances de l'hôpital Rumonge. Les détails dans ce journal. Deux personnes mortes dans la commune Nyanzarake au sud du pays. L'une d'entre elles a été victime d'une justice populaire accusée de sorcellerie et d'avoir tué l'autre. Baisse de la quantité de thé exporté par le Burundi de 2015 à 2020, elle est passée de plus de 11 000 tonnes à moins de 9 000 tonnes. Le mini-magazine au cœur de la société nous expliquera la cause de cette baisse et les voies de solutions pour augmenter la production et les exportations. À la présentation de ce journal, Joséphine Johnson-Hunzeman.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Approbation hier par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de la continuité du suivi et évaluation de la situation des droits de l'homme au Burundi. Il y aura à la place de la commission d'enquête un rapporteur spécial sur le Burundi. Raoul Ngengurutse nous en dit plus.
Le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme au Burundi aura pour rôle d'enquêter et de rapporter la situation des droits de l'homme au Burundi. Il pourra également formuler des recommandations aux Nations Unies et au Burundi. Le Conseil des Nations Unies a déploré les restrictions sévères imposées à l'exercice des droits civils et politiques et des libertés fondamentales, en particulier les libertés d'opinion et d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que le rétrécissement de la marge de manœuvre dont dispose la société civile et les citoyens qui militent. Le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme demande au gouvernement de ne pas soutenir les discours haineux à connotation politique et ethnique qui sont souvent diffusés sur les réseaux sociaux. Il condamne l'impunité généralisée pour toutes les violations des droits de l'homme et demande instamment au gouvernement du Burundi de faire en sorte qu'indépendamment de leurs affiliations ou de leur statut, tous les auteurs, qu'ils soient membres des forces de défense et de sécurité, ou du mouvement de la jeunesse affilié au parti au pouvoir, les Imbonerakure, soient amenés à répondre de leurs actes, y compris les violences sexuelles basées sur le genre et les mauvais traitements infligés aux enfants. Le Conseil des Nations Unies formule plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement burundais, dont l'essentiel est basé sur le respect et la protection des droits de l'homme. Il demande au gouvernement burundais également de veiller à ce que les victimes puissent demander justice et obtenir réparation. Il a demandé de nouveau au gouvernement burundais de mettre d'urgence à terme toutes les violations des droits de l'homme et toutes les atteintes à ses droits. Le Conseil demande également au gouvernement burundais d'assurer la sécurité, l'intégrité physique de la population ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire, de prendre immédiatement des mesures pour faire les réformes dont le secteur judiciaire a tant besoin et de renforcer la séparation des pouvoirs sous le contrôle du Parlement ainsi que l'état de droit et la bonne gouvernance. La résolution mettant en place le rapporteur spécial des Nations Unies au Burundi a été votée avec 21 voix pour et 15 voix contre ainsi que 11 abstentions.
C'est la satisfaction chez les défenseurs des droits de l'homme burundais. Maître Armel Niyongere, président de l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, demande au futur rapporteur spécial de travailler en toute indépendance. On l'écoute.
Nous nous réjouissons de l'adoption du nouveau mécanisme de rapporteur spécial sur le Burundi qui vient remplacer la commission d'enquête sur le Burundi qui a pu faire des bons rapports de violation des droits de l'homme au Burundi en toute indépendance. Comme le Conseil des droits de l'homme voulait, et même l'année passée, mettre fin au mandat de la commission d'enquête, soi-disant qu'il a été renouvelé de mandat plusieurs fois et qu'il devrait passer ou proposer un autre mécanisme. Nous avons suggéré au Conseil des droits de l'homme de mettre en place un autre mécanisme indépendant pour faire la documentation des violations des droits de l'homme parce qu'il n'y a pas au Burundi des mécanismes indépendants pour faire ce travail. Donc nous nous réjouissons de la mise en place de ce rapporteur spécial sur le Burundi. Et puis ça montre que l'ONU et le Conseil des droits de l'homme restent saisis de la question du Burundi et aura toujours un œil et vigilant sur la situation des droits de l'homme au Burundi. C'est comme une continuité du travail qui avait été fait par la commission d'enquête. Nous demandons au gouvernement du Burundi de changer de comportement, d'accepter de coopérer et de collaborer avec son rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, au lieu de nier qu'il y ait des violations des droits de l'homme au pays. Et puis, il faut que le gouvernement puisse traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont après de lutter contre l'impunité. En tant que société civile, nous allons collaborer et coopérer avec ce rapporteur spécial sur le Burundi et en lui demandant de rester indépendant comme l'a démontré la commission d'enquête sur le Burundi.
C'était Armel Niyongere de la CAT Burundi. Les proches d'Arkad Arakaza réclament sa libération. Cet habitant de la colline Donge Burasira, en commune Mugamba, en province Bururi, a été arrêté mercredi dernier à Tora sur ordre du chef de la zone Kibedzi. Il est soumis à la torture dans les cachots du commissariat de police à Mugamba, selon ses proches. Le point avec Beni Akserakana.
Les proches de la famille d'Arkad Arakaza affirment qu'il a été arrêté après avoir été contacté au téléphone par Cyprien Niwona, le chef de zone Kibedzi, accompagné par une personne en conflit foncier avec Arkad Arakaza. Un des voisins demande sa libération.
Nous sommes choqués et nous lançons une alerte pour sauver cet individu qui subit la torture au commissariat de Mugamba. Il a été arrêté par deux policiers au moment où il revenait du marché de Tora. Il avait été contacté au téléphone par le chef de zone. Nos sources nous ont révélé qu'il a été torturé au commissariat de la police de Mugamba.
Ses voisins déplorent les actes de torture infligés à certains gens qui sont en conflit foncier avec des personnes proches de l'autorité. Un des habitants explique que le fils d'Arkad Arakaza a déjà fui pour les mêmes raisons.
Nous devons essayer de trouver des solutions pour éviter que les conflits fonciers ne soient l'origine des actes de violence. Pour le moment, le fils d'Arkad a déjà fui pour les mêmes raisons. Nous demandons au commissaire provincial et au procureur de lui venir en aide.
La radio Inzamba a contacté par téléphone Cyprien Niwona, le chef de zone de Kibedzi, pour plus d'éclaircissements. Il n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet.
Restons dans le sud du pays pour parler justice populaire à Makamba. Un homme accusé de sorcellerie a succombé à ses blessures ce samedi. Cela s'est passé sur la colline Kiderege de la commune Nyanzaraki. Il avait été grièvement blessé hier vendredi par des jets de pierre, accusé d'avoir tué par ensorcellement une habitante de la même colline. Les précisions d'Alice Akimana.
Selon une source sur la colline Kiderege en commune Nyanzalak, la prénommée Francine est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi et s'apprêtait à convoler un os samedi de la semaine prochaine. La même source indique qu'elle aurait été ensorcelée par un certain Stéphane, car elle aurait révélé, avant de tomber dans l'agonie, que Stéphane, après l'avoir touché, avait prédit sa mort avant le mariage. La famille de la victime a porté plainte contre l'audit Stéphane pour qu'il fasse soigner la victime qui était à l'agonie mais sans succès. Après sa mort, les voisins s'en sont pris à Stéphane et à son épouse en les lapidant avant de mettre le feu sur leur maison. La police et les administratifs sont aussitôt intervenus et ont évacué les deux époux dans une église située sur cette colline. Mais la même source dit que Stéphane a finalement succombé à ses blessures le matin de ce samedi. Ce ne serait pas la première fois que Stéphane était accusé de sorcellerie. La source indique en effet qu'il avait fui la localité pendant la guerre civile parce que les groupes rebelles l'avaient pris pour cible en raison de ses activités occultes. Au mois de septembre, des évêques de l'église catholique avaient alerté sur le phénomène de sorcellerie et ses conséquences à travers le pays, appelant les autorités à trouver une solution avant que la situation ne s'aggrave.
Inzamba. Rien ne peut justifier la mort de deux enfants dont les corps sans vie ont été retrouvés mercredi dernier sur la colline de Luyaga, en commune Tangara de la province Ngozi. Déclaration de David Ninganza. Ce défenseur des droits de l'enfant pense que ses enfants ont été victimes des conflits des adultes, ceux-là même qui étaient censés les protéger. Il condamne les auteurs du crime qui, selon lui, ont perdu le sens d'humanité. On l'écoute.
C'est dommage qu'il y a des gens qui s'arrogent le droit de piétiner sur la vie de quelqu'un. Imaginez-vous tuer les enfants qui nécessitent une protection de tout le monde, une protection émanant de toutes les institutions. C'est triste parce que les enfants ne dérangent jamais les intérêts des autres. Les enfants n'entrent jamais en conflit. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de raison qui pousse à quelqu'un vraiment de tuer les enfants et enterrer de façon atroce les enfants sages, les enfants innocents, les enfants qui nécessitent l'apport, la contribution de tout le monde en cas de danger. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont perdu le sens de vous, non? Ils ont perdu, ce ne sont pas des personnes qui ont un esprit humain, ce sont des gens à bannir, à mettre en dehors de la société, qui peuvent agir contrairement vraiment à la conscience de la personne humaine. Sinon, les Burundais, c'est un peuple qui aime les enfants. C'est un peuple à travers des proverbes, à travers la culture, qui met en avant l'enfant, qui montre la valeur de l'enfant, qui considère l'enfant comme une richesse, qui considère l'enfant comme une propriété commune, qui considère l'enfant comme un avenir du peuple. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, vraiment, ont perdu le sens du bon nom. Ce sont des gens à condamner avec toute énergie.
On en vient à ce climat de mésentente à l'hôpital de Lumongue. Le directeur de l'hôpital et le directeur administratif et financier sont divisés sur l'octroi des marchés publics et de cet hôpital. Les conséquences sont nombreuses sur les employés et les malades selon les sources au sein du personnel. On fait le point avec Vanessa Mohiteka.
C'est dans la semaine passée que le personnel de l'hôpital de Lumongue a été informé que certains avantages de service ont été réduits par une mesure de la direction. Il s'agit entre autres de la ration journalière des employés de garde. Ils ne reçoivent plus ni de la viande ni du poisson comme c'était auparavant selon les sources du personnel soignant. La direction a expliqué que l'hôpital connaît un déficit budgétaire. La direction a aussi annoncé à son personnel que le contrat avec le fournisseur des services traiteurs a été rompu au profit d'un autre. La directrice administrative et financière a déploré de son côté l'absence de dialogue avec son directeur dans la prise de décision, ce qui est à l'origine du dysfonctionnement dans cet hôpital provincial de Lumongue. La chargée des finances indique également que d'autres marchés de l'hôpital sont octroyés au privé à son insu. Les employés de l'hôpital de Lumongue réclament une inspection du ministère de la Santé avant que la situation ne se détériore. À ces inquiétudes des employés de l'hôpital de Lumongue, on n'a pas encore eu au téléphone le directeur de l'hôpital, Dr. Ernest Nditolé, pour réaction.
Le prix Nobel de la paix 2021 décerné à deux journalistes, la Philippine Maria Reza et le Russe Dmitri Muratov, pour leur défense de la liberté d'expression. Maria Reza et Dmitri Muratov sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables, a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, hier vendredi à Oslo, en Norvège. Le point avec Jean-Marie Ndavashinze.
Âgée de 58 ans, Maria Reza a cofondé la plateforme numérique de journalisme d'investigation Rappler en 2012. Le média a braqué les projecteurs sur la campagne antidrogue controversée et meurtrière du régime du président philippin Rodrigo Duterte, a fait savoir le comité Nobel. Son aîné Dmitri Muratov a quant à lui un des cofondateurs et un rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta, une des rares voix encore indépendantes en Russie, où la dissidence se heurte à une force répressive. Maria Reza et Dmitri Muratov sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des conditions de plus en plus défavorables, a déclaré la présidente du comité Nobel, Beri Leif Sandorsen, à Oslo. La sauvegarde de la liberté d'expression, une condition préalable à la démocratie et à la paix durable, a-t-elle poursuivi. Les Nations Unies ont félicité les deux journalistes. C'est une thématique chère pour elles, a affirmé à la presse la directrice de l'information de l'ONU à Genève, Alessandra Verucci. C'est très important pour les droits humains, a-t-elle dit. De son côté, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a dénoncé une augmentation ces dernières années des assauts contre les travailleurs des médias.
Place au mini-magazine, au cœur de la société. Au cours des 5 dernières années, la quantité du thé exporté a baissé de 20%. Certains théiculteurs affirment que le fait qu'ils n'entretiennent plus comme il faut leur plantation constitue l'une des causes principales de la faible production du thé. Que faut-il pour améliorer la production du thé, qui est l'une des principales sources des devises du pays? La réponse dans son mini-magazine au cœur de la société, à la présentation d'Yann Nkurunziza.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
La culture du thé est la deuxième source des recettes d'exportation du Burundi. Par contre, la quantité du thé exporté ainsi que les devises rapportées par ce produit ont connu une diminution continuelle les 5 dernières années. Quelles sont les causes de cette décroissance de la production du thé? Que devraient faire les principaux acteurs de ce secteur, c'est-à-dire l'État et les agriculteurs, pour améliorer en quantité et en qualité la production de cette culture d'exportation? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 9 octobre 2021. Diane Nkurunziza à la présentation. Bienvenue à tous et à toutes. Selon les données de la Banque de la République du Burundi, la quantité du thé exporté était moins de 9 tonnes en 2020, alors qu'en 2015, la quantité du thé à l'étranger dépassait 11 000 tonnes, soit une diminution de plus de 20%. Un revenu non proportionnel aux travaux qu'exige cette culture est l'un des facteurs de cette diminution de la production du thé. Certains théiculteurs l'ont confié à nos confrères de la radio RPA et la télévision Renaissance.
Si l'on considère l'énergie dépensée lors de la cueillette, l'on se lève très tôt le matin et l'on prélève les feuilles une à une, même en pleine pluie. L'eau ne s'abrite pas. C'est impossible de faire la cueillette seule. Tu dois engager quelqu'un pour t'aider. Certains ont abandonné la culture du thé et d'autres transforment les tiges en bois de chauffage parce qu'ils ne voient pas son importance. Un autre problème qui hante les théiculteurs, c'est l'absence des engrais appropriés. L'engrais fabriqué par FOMI n'est pas du tout efficace. L'engrais qu'on utilisait auparavant était beaucoup plus productif. Qu'ils augmentent alors le prix du thé chez le théiculteur pour que nous continuions à travailler dans nos champs étant à l'aise.
L'argent que nous recevons pour un kilogramme de thé n'est pas proportionnel à l'énergie dépensée. Il y a une partie du champ que j'ai abandonnée parce que je ne suis plus capable d'embaucher des gens pour la cueillette. Parfois, nous nous demandons si, à la place du thé, il ne serait pas mieux de cultiver les patates douces ou les pommes de terre sans aucune pression. Mais nous craignons l'autorité. Si ça dépendait uniquement de moi-même, j'aurais déjà arraché mes plantations de thé.
Le pays nécessite beaucoup d'entretien pour être productif. Quand vous ne faites la cueillette que rarement, le pays ne produit plus beaucoup de feuilles. Un autre obstacle, c'est l'engrais que le TB donne sous forme de crédit. Lors du paiement des agriculteurs, nous sommes obligés de rembourser ces dettes et ça nous décourage. Il nous arrive même que nous n'acceptons plus ces engrais à rembourser.
Le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions n'ignore pas le désistement de certains agriculteurs à entretenir leurs champs. Par ailleurs, son ministère s'est engagé à accroître chaque année d'au moins 20% de la production du thé. Deogwide Rurema, ministre de l'Agriculture, l'a annoncé dans sa conférence de presse du 12 août de cette année.
Multiplier les pépinières de théiers, augmenter les embravures dans les régions naturelles d'Ogutusi, là où la recherche a montré que cette culture peut s'adapter. Sensibiliser davantage les théiculteurs à bien entretenir leurs champs, à procéder à la reconversion théicole. Il est demandé aussi à ceux qui arrachent les plantations d'abandonner cette mobilité.
Pour l'expert en économie Faustin Dikoumana, il sera difficile de redresser la décroissance de la production du thé tant que les agriculteurs ne sont pas motivés par une rémunération proportionnelle aux efforts qu'ils fournissent.
Il faut analyser si le prix accordé aux cultivateurs du thé est un prix rémunérateur qui l'encourage à continuer à se lancer dans cette culture. Sinon, le thé pourra disparaître dans un autre comme le café là, a commencé à l'être. Il faut agir sur toutes ces superstructures qui s'interposent entre l'achat de la récolte des cultivateurs par les usines et le prix à l'exportation. Les frais d'entretien, les dépenses dans ces usines, dans ces structures de transformation pour continuer à maintenir un prix rémunérateur qui encourage le cultivateur de cette culture. Sinon, la situation peut tourner autrement. Même en Côte d'Ivoire, si le prix, même au niveau international, était toujours volatile, mais en Côte d'Ivoire, le prix du cacao, le gouvernement essaie de le maintenir à un prix où le citoyen ou le paysan cultivateur ne sent plus ces chocs liés à ces perturbations du prix au niveau du marché international. Et c'est comme ça que ces cultures ont été entretenues, ont continué à procurer beaucoup de devises au pays.
Une bonne rémunération des agriculteurs inciterait les gens à planter de nouveaux théiers et à bien entretenir leurs plantations. Le Burundi pourrait prendre l'exemple du Kenya, premier pays producteur du thé en Afrique et troisième au monde, qui donne 70% du prix du marché aux théiculteurs. C'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Diane Nkurunziza était à la présentation. Au revoir et bon week-end à tous.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Comme chaque samedi, terminons par la revue de la presse. Elle est présentée par Blaise Nijimbeji.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs à cette revue de presse que nous commençons par la page politique. Le journal Iwatch parle d'une nouvelle structure qui ne fait pas l'unanimité. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a signé un décret le 27 septembre dernier portant mission, organisation, fonctionnement du Conseil supérieur permanent de la magistrature. Pour certains, c'est une avancée dans le secteur judiciaire, tandis que d'autres voient un renforcement de la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Certains magistrats contactés par le journal Iwachu trouvent que c'est une avancée, car à travers ses discours, le président se plaignait du travail des magistrats. D'autres voient plutôt la stratégie d'Evariste Ndayishimiye de prendre en main le pouvoir judiciaire. Bernard Naira Aja, du Centre norvégien des droits de l'homme à l'Université d'Oslo, dit que le décret ne peut pas résoudre les problèmes créés par une loi qu'il applique, une loi problématique au regard de l'indépendance de la magistrature. Toujours en page politique avec Burundi Diary Net, qui écrit sur les divisions internes du parti CNDD-FDD qui continue. Alors que l'opinion s'interrogeait sur le silence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, Gervain Ndirakobuca, par rapport aux propos haineux et divisionnistes tenus par les administratifs à l'endroit de la communauté ethnique Tutsi, Gervain Ndirakobuca est sorti de son silence. Il a destitué de ses fonctions l'administrateur de la commune Nhega dans la province Kirundo pour avoir proféré des propos indignes d'une autorité. Mais certains pensent que c'est lié aux divisions internes entre les membres du parti au pouvoir. Marin Itimana, l'ex-autorité communale de Nhega, était un fervent partisan d'Athanase Manirambona, commissaire chargé de la propagande et de l'idéologie du parti CNDD-FDD. Lors du dernier congrès du CNDD-FDD tenu en Ngozi, Le commissaire a été reconduit. L'ex-administrateur d'Onega n'a pas caché sa joie à travers les audios qu'il a fait circuler sur les réseaux sociaux, ce qui a valu la destitution. Deux cas se regardent en chaîne de danse au sein du parti CNDD-FDD en province Kirundo. D'un côté, ceux qui sont pour le commissaire Athanase Manirambona et de l'autre côté, ceux qui sont derrière Jean-Baptiste Nziga Masabo, alias Gihari. Parlons maintenant sécurité pour continuer cette revue de presse. Affaire Sangue, quatre familles ont reconnu les enfants parmi les interpellés. Titre le journal à ligne SOS Média. Parmi les 30 jeunes Burundais arrêtés au groupement de Sangue sur le territoire de Vira, en République démocratique du Congo, 9 ont été reconnus par leurs familles. Ils sont originaires des communes de Rugombo et Uganda, de la province Cibitoke, au nord-ouest du Burundi. Ils ont été arrêtés ce mardi 5 octobre par la police congolaise, les artisans de voleurs de vaches voulant aussi rejoindre les mouvements armés. Après avoir reconnu les visages des leurs sur les poteaux qui circulaient sur les réseaux sociaux, quatre familles se sont rendues ce jeudi 7 octobre au bureau du gouverneur de la province Cibitoke. Les familles ont avoué avoir reconnu les enfants et demandent à l'autorité provinciale d'intervenir pour qu'ils soient rapatriés. Selon SS Media, la majorité de ces jeunes sont des Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Parlons justice pour clore cette revue de presse. L'agence burundaise de presse, ABP, écrit sur un procès de flagrance contre deux personnes accusées d'usurpation d'identité à Ngozi. Ce mardi 5 octobre, le tribunal de grande instance de Ngozi a infligé une servitude pénale de 10 ans à deux jeunes gens accusés d'outrage à la magistrature, de chantage et d'usurpation d'identité. Ils couraient sur des photos des femmes, des images pornographiques et les femmes concernées de publier leurs photos si ces femmes ne payent pas de rançon. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous terminons cette revue de presse. Blaise Enegimbele, qui vous l'avait présenté, vous souhaite de passer les meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir, bon week-end.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Fin de ce journal, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Bon week-end, au revoir.